CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans ce MAG du pays Midi-Quercy où vous aurez dans la chronique Les circuits courts, bonjour, un retour sur une table ronde organisée samedi par la Confédération Paysanne pour sa fête paysanne à propos des abattoirs, du manque sur le territoire et de solutions pour pallier à ce manque et donc réduire le stress du transport des animaux, réduire les intermédiaires et donc les coûts. Mais avant ça, et pour la première partie de MAG du pays Midi-Quercy, on vous parle de la belle époque via une soirée autour de la belle époque qui est organisée le samedi 27 prochain, une soirée du côté de la Grange du Soulier à la Bastide de Peine, initiée par l'association Consol. On va tout détailler en compagnie de la présidente de l'association, Muriel Lardot. Tiens, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Lisa. Bonjour Aude.
Mais oui, justement, avant ça, on recontextualise. Pourquoi la belle époque? Pourquoi cette thématique dont s'est saisi le pays d'art et d'histoire du pays Midi-Quercy? On est avec sa chargée de programmation du PH, Aude Caverzan. Bonjour.
Bonjour Lisa.
Alors, pourquoi la belle époque?
Eh bien, parce que l'inventaire, le service inventaire du patrimoine a choisi ce sujet comme thème de son prochain ouvrage qui va sortir tout bientôt, qui va sortir en pays Midi-Quercy bientôt. Et donc, pour rappeler peut-être ce que c'est que la belle époque et pourquoi ce sujet est si intéressant, c'est parce que, alors la période, il y a des débats d'historiens, mais l'inventaire et donc nous-mêmes plaçons cette période à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et on le fait commencer en 1870 avec l'avènement de la Troisième République. Et c'est vraiment une période qui est marquée par cette République tout au long jusqu'à sa fin. Donc la fin de la Belle Époque, on la place à la veille de la Première Guerre mondiale, 1914. Vu que cette république est là tout le long, elle assoit son pouvoir et donc tout le territoire français, et dont le pays Midi-Quercy, est marqué par l'implantation de nombreuses mairies-écoles ou écoles tout simplement. Je pense à cette fond où on a l'école de garçons, l'actuelle médiathèque, l'école de filles. Donc on a tout plein d'écoles vraiment et la même architecture normée qui est adaptée bien sûr aux moyens de locaux et puis aux besoins, hein, mais il y a cette architecture vraiment normée des écoles. Il y a la Belle Époque, c'est aussi une période de grandes mutations, de progrès techniques, surtout avec l'électricité, l'eau courante, certaines maisons, notamment chez les bourgeois, s'équipent de salles de bain qui est un véritable confort pour l'époque. On a tout le développement du transport aussi, avec la ligne de chemin de fer. Il y en a une qui passe par Montauban jusqu'à Lexos et qui passe par Nègrepelisse, Montricou. Toute cette route départementale actuellement, c'était une voie de chemin de fer à la Belle Époque. On a aussi le tramway qui marque beaucoup le territoire. Je pense à la ligne, par exemple, Caussade, qui va jusqu'à Caylus, en passant par Sept-Fonds. Là aussi, il y a ces routes toutes droites. Celle-là, c'était une ligne de tramway. Donc voilà, une époque marquée par ce progrès-là, et aussi sur le territoire. Et c'est aussi une époque de grande effervescence artistique. Donc, que ce soit en peinture, en architecture, en musique, on a l'art nouveau qui marque la période, ce style inspiré des formes de la nature, qu'on retrouve assez timidement d'ailleurs en Midi-Quercy. Il y a, je pense, à un café à Caussade, Les Milliardises, ça s'appelle actuellement, qui a été un café art nouveau à la Belle Époque. On retrouve ce style-là, mais bon, c'est assez timide en Midi-Quercy. Et bon, bien sûr, on a la musique. Et on va en parler pendant cette soirée, notamment.
Oui, en fait, on a organisé une soirée au café-concert, ce qu'on appelait le CAF-Cons à l'époque. C'est une époque très musicale, où il y a à la fois de grands compositeurs comme Ravel, Debussy, Fauré, Eric Satie. Et puis on a, c'est aussi une période où il y a une effervescence, voilà, c'est l'époque de la rue, des voyous, des apaches, Donc il y a le début d'une chanson française qui va avoir une tradition de la chanson réaliste par exemple, mais aussi de la chanson drôle, humoristique. Et voilà, donc pour cette soirée, il s'agit de plonger les spectateurs dans l'ambiance d'un café-concert, de leur faire écouter des chansons tubes de la Belle Époque. Je sais pas si y en a qui se rappellent de Froufrou, de Madame Arthur, de Viens Poupoule. C'est des tas de chansons qui ont marqué le temps, mais qui ont perduré pendant très longtemps, puisque dans les années 50, il y a eu une sorte de revival de ces chansons réalistes. Bon, là, je résume un peu tout ça, mais bon, et puis il y aura la projection d'un film qui s'appelle le Mystère Satie, parce que Eric Satie, il a composé énormément de choses pour le piano, pour l'orchestre, etc., mais il a aussi composé des chansons qui ont fait vraiment un malheur à l'époque, comme la diva de l'Empire, qui lui a apporté du succès quand il était encore vivant, et puis qui a été écrite pour une star des cafés-concerts parisiens, pour la chanteuse Paulette Darty. Mais des cafés-concerts, il n'y en a pas eu qu'à Paris, il y en a eu un peu partout, il y en a eu même dans le sud-ouest, dans plusieurs villes. Voilà. Et puis alors on aura un apéro dînatoire inspiré par la Belle Époque, avec des recettes de l'époque. Voilà. Alors une ambiance café-concert. Et puis si les gens le souhaitent, ils pourront visiter l'exposition qui a pu être organisée grâce au soutien de la communauté de communes du Quercy-Caussadet, et qui est une exposition qui s'appelle Petite histoire d'une grande époque, dans laquelle sont exposés des objets et documents qui sont prêtés par les habitants de la région. Et voilà, ces documents et ces objets qui font revivre une période un peu oubliée des grands-parents, de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un appel, parce que cette exposition, elle est en constante évolution. Donc si il y a des volontaires pour prêter des objets, un objet ou une photo, voilà, on serait très content de pouvoir augmenter l'exposition.
Des objets qui datent de la Belle Époque, toujours.
Bien sûr, oui. Oui. Voilà. Est-ce que on parlera de personnages truculents comme Mayol, Dranem, Fréhel, Yvette Guilbert, qui ont été dessinés ou peints par Toulouse-Lautrec. C'était vraiment une époque de grande effervescence, et l'essor du café-concert marque aussi l'émergence de cette culture populaire. Et en fait, je me suis vraiment plongée dans le sujet pour découvrir plus de choses que ce qu'on connaît communément. Et c'est absolument passionnant. Il y a des enregistrements anciens de tous ces chanteurs et chanteuses. Ils sont pas de super qualité, mais ils sont très émouvants. Et cette soirée, ça sera l'occasion d'en écouter quelques-uns. Voilà.
Autour de la Belle Époque, donc de la musique en particulier, je crois que dans le cadre toujours de ce pays d'arrêt d'histoire, donc de cette thématique, la Belle Époque, il y a eu d'autres expositions d'objets autour de l'école qui était organisée à la Mounière, la Maison des Mémoires. Il y a le service inventaire du patrimoine qui se penche beaucoup sur l'architecture, sur les vêtements, sur les modes de l'époque. Il y a tout un pan d'histoire à découvrir à travers cette thématique. C'est ce que vous faites dans le cadre des pays d'arrêt d'histoire. Avant, c'était l'eau. Là, c'est la Belle Époque. Il y a encore des choses à fouiller ?
C'est ça. Après, on s'est vraiment basé sur les recherches de l'inventaire. Donc, on explore un petit peu les différents aspects de cette période, la Belle Époque. Donc, bien sûr, on a encore beaucoup de choses à explorer. Là, pour le moment, on est parti sur le thème de l'école, par exemple, à travers des ateliers qu'on avait fait à cette fond, puisque la médiathèque est une ancienne école de garçons. On se dit que peut-être, pourquoi pas, faire tourner aussi cet atelier. Bon, ça sera à voir aussi l'an prochain dans d'autres lieux où il y a des écoles assez emblématiques. Explorer aussi le thème de la mode, peut-être, puisqu'on a quand même le savoir-faire du chapeau, en Quercy-Caussadet notamment. Donc là, le chapeau à la Belle Époque, c'est clair que ça prend tout son sens.
On peut retrouver plein d'informations sur le site internet du PETR, du pays Midi-Quercy et donc de son pays d'art et d'histoire. En attendant, le prochain rendez-vous pour cette rencontre et projection autour du film Le Mystère Sati, organisé donc par l'association Console, c'est là samedi 27 prochain à la Grange du Soulier, à la Bastide de Pennes. C'est gratuit si on fait partie de l'association, si on a déjà adhéré, sinon ça appartient de 10 euros je crois.
Voilà, il faut adhérer à l'association possibilement, et puis peut-être participer aussi pour l'apéro dînatoire. Il y a une petite participation qui est demandée, et toutes les informations peuvent être trouvées. On a une page Facebook qui s'appelle Console La Grange du Soulier, et je suis à la disposition de tous pour donner des précisions et des détails.
Muriel Lardo, présidente de l'association Console. Merci beaucoup.
Merci à vous. À bientôt.
Et en partenariat pour cette soirée avec le Pays d'art et d'histoire du Pays Midi-Quercy, dont la chargée de programmation est avec nous, Aude Caverzan. Merci.
Merci.
CFM, le MAG, la vie du Pays Midi-Quercy.
Et pour la deuxième partie de ce mag, c'est à Marie Brandy qu'on confie le micro pour sa chronique mensuelle, les circuits courts. Bonjour, Marie, elle est chargée de mission alimentation et donc circuits courts au sein du PETR du Pays Midi-Quercy.
Les circuits courts, bonjour. Aujourd'hui, je suis à la fête paysanne organisée par la Confédération paysanne à Lavourette, dont une des thématiques abordées aujourd'hui est l'abattage. Ils ont invité Jacques Alverne, qui est donc spécialiste des abattoirs, et je viens de le rencontrer. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement qui vous êtes ?
Donc, je suis Jacques Alverne et je suis d'une part un ancien éleveur bio à Véronée et ancien directeur d'abattoir sur plusieurs abattoirs de l'Aveyron, de Lozère, des Hautes-Alpes. Depuis quelques années, depuis 2018, je ne suis plus en responsabilité d'abattoir, mais je suis consultant, auto-entrepreneur, et j'accompagne des projets d'abattage alternatif. Donc je suis officiellement consultant en mode alternatif d'abattage, c'est un bien grand mot. Mais en fait, mon job consiste à accompagner des projets liés aux éleveurs, liés aux paysans, pour reprendre en main l'abattage avec différentes thématiques là-dedans, des thématiques techniques autour des questions d'abattage, des abattoirs mobiles, semi-mobiles, mais aussi, surtout, des thématiques organisationnelles, c'est-à-dire comment on s'y prend pour reprendre en main la gouvernance des abattoirs, l'autonomie des abattoirs et la place des paysans à l'intérieur de ces outils-là.
Alors déjà, pour situer un petit peu le contexte, c'est quoi la problématique de l'abattage globalement? Alors je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas spécialiste pour le Tarn-et-Garonne, mais globalement...
Globalement, la problématique des abattoirs actuellement, c'est qu'on a en France très peu d'abattoirs et de moins en moins d'abattoirs. Pour être précis, on vient de passer sous la barre des 230 abattoirs sur le territoire national. C'est-à-dire grosso modo 2 abattoirs par département, mais il y a aussi un certain nombre de départements où il n'y a même plus d'abattoirs, y compris des territoires ruraux, des départements relativement ruraux.
C'est le cas du Tarn-et-Garonne.
Cas du Tarn-et-Garonne, oui. Alors qu'on en avait, je ne sais plus les chiffres en tête, mais plus de 1000 en 2000-2010. Donc ça ne fait que chuter. Actuellement, depuis 2 ans à peu près, on perd un abattoir par mois. C'est pas rien, ça va très vite.
Pourquoi ?
J'y viens. Et à titre de comparaison, en Allemagne, il y a plus de 3000 abattoirs. En Italie, il y en a 1700. Donc on est sur des structures nationales de l'abattage qui sont complètement différentes. Et du coup, on a des abattoirs, vu que beaucoup ferment, pour les éleveurs, les abattoirs se retrouvent de plus en plus loin. Alors pourquoi ces fermetures ? Pour différentes raisons. D'abord, une des raisons, c'est une, une stratégie nationale ancienne qui a visé à concentrer les abattoirs, mais ça c'est quelque chose qui a été engagé en France dans les années 70-80. Donc ça fait 40 ans qu'on dit il faut concentrer les abattoirs, il y a trop de structures d'abattage, etc. Et puis on a une situation plus conjoncturelle qui est liée à ces dernières années au renchérissement des coûts de l'énergie, aux difficultés qu'il y a aussi à trouver du personnel pour travailler en abattoir. Et en particulier, les abattoirs qui ferment en ce moment sont des petits outils d'abattage de proximité, souvent gérés en régie, qui appartiennent à des collectivités. Voilà. Et ça, c'est dramatique parce que ce sont ces outils-là dont les éleveurs ont besoin pour avoir, pour pouvoir pratiquer des circuits courts en ayant des outils d'abattage et de découpe éventuellement à proximité. Quand il s'agit aujourd'hui de faire... j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui parlait d'abattoir à une heure et qui trouvait que c'était long. Moi, je connais plein de situations où les éleveurs, ils ont des abattoirs à deux heures et demie de route. Donc, c'est pas qu'il faut pas se plaindre, il faut se plaindre, mais il y a pire. Et donc, des situations dramatiques où les gens qui sont installés en circuit court depuis très longtemps, je dirais, tiennent le coup en général. Ils font l'effort d'aller un peu plus loin, etc., même si ça leur coûte plus cher, sans pour autant répercuter ça sur le prix de la viande. Mais les gens qui sont installés en circuit court depuis peu, souvent sont plus fragiles et eux lâchent la partie et arrêtent leur approvisionnement en circuit court et retournent en filière longue. D'autant plus que ces derniers temps, les cours de la viande en filière longue sont relativement élevés. Ça va peut-être pas durer, on ne sait pas, mais voilà, ça donne de la fragilité à tous ces circuits courts.
Et alors, en solution alternative, qu'est-ce qu'il existe peut-être en termes de bien-être animal aussi?
Alors, en solution alternative, déjà, il y a une chose, c'est ne pas laisser fermer des abattoirs, se battre pour que les abattoirs ne ferment pas, ou se battre pour reprendre les abattoirs, donc la gestion des outils d'abattage, et les faire reprendre par des paysans qui prennent en main la gouvernance, voire l'opérationnel de l'abattage. C'est une formule qui existe, plus dans le sud-est de la France, on a une petite dizaine d'abattoirs qu'on appelle des abattoirs paysans. Ce sont des abattoirs non seulement qui sont gouvernés par des paysans, c'est-à-dire qui sont montés en coopérative, en général en SIC, modèle vertueux de gestion et d'organisation, mais où aussi ce sont des outils où il y a plus de salariés, où ce sont les paysans qui viennent faire l'abattage un jour par semaine, certains des paysans qui se mobilisent pour aller faire le travail d'abattage. Et du coup, on a une reprise en main complète et une orientation, on en fait des outils vraiment dédiés au circuit court et aux besoins des éleveurs, des paysans du coin, et pas aux besoins de négociants en viande qui sont... moi, je considère personnellement que les négociants en viande sont des prédateurs pour les abattoirs. Ce n'est pas des gens qui sont là pour que les abattoirs durent, ils sont là pour les utiliser, les pomper, les exploiter. Mais la viabilité des outils d'abattage, ce n'est pas leur souci. Voilà, donc ça, c'est une solution. Après, il y a d'autres solutions qui consiste à, là où il n'y en a pas, monter des solutions d'abattage, construire des solutions d'abattage, en essayant de aujourd'hui, on est en capacité de monter des abattoirs avec des investissements qui sont relativement réduits. C'est-à-dire que tout le gros du problème pour créer des outils d'abattage, c'est de changer d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'un abattoir, c'est quelque chose qui est considéré, justement à cause de cet historique lourd, comme quelque chose qui doit être gros, qui doit faire de la cadence, qui doit faire du rendement, qui doit faire de la productivité, etc. Aujourd'hui, il faut arriver à concevoir des outils d'abattage dans un objectif de réduire les ambitions et en gros, je dirais, des outils d'abattage qui soient un peu en décroissance. Quoi. Et c'est pas dans l'état d'esprit des gens qui gèrent les abattoirs actuellement. Quoi.
À taille plus humaine, en fait.
Ouais, à taille humaine aussi, où on ne se soucie pas d'augmenter les cadences et d'augmenter le tonnage, l'activité des utilisateurs.
Et l'abattoir mobile, là-dedans?
Alors, l'abattoir mobile, là-dedans, c'est une solution technique
ou à la ferme, je ne sais pas s'il y a une différence.
Alors, oui, il y a une, alors l'abattoir mobile est une des solutions d'abattage à la ferme. C'est une solution relativement complexe. On en veut pour preuve le fait que la notion d'abattoir mobile, même si elle existait dans la réglementation depuis plus de 20 ans, a été relancée par la loi Egalim et le fait qu'il y ait un article de loi qui porte sur l'expérimentation des abattoirs mobiles. Cette loi Egalim, c'est la première loi Egalim, donc de 2018, donc ça fait déjà 7 ans. Et en fait, il y a eu une seule expérience d'abattoir mobile, qui a été l'abattoir du bœuf éthique, qui a fait faillite entre-temps. Donc personne en fait ne se lance là-dedans parce que c'est très compliqué. Un abattoir, c'est quelque chose qui fait pas que abattre des animaux. C'est quelque chose qui gère ses déchets, qui gère son eau, qui gère ses polluants, qui gère tous les intrants, qui va gérer aussi, en plus de la carcasse, le traitement des abats, le blanchissement des panses, par exemple, si on veut sortir des panses de l'abattoir. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et quand on fait un abattoir mobile, on doit intégrer tous ces besoins. Là. Et faire en sorte que tout ça soit mobile. Et là, ça devient très compliqué. On pense comme ça que c'est très simple. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors après, il y a d'autres solutions pour ce qui relève de l'abattage à la ferme. Il y a une première solution qui est ce qu'on appelle le caisson d'abattage, qui, elle, pour le coup, n'existait pas dans la réglementation et qui a été... on a fait avec la Confédération Paysanne au niveau national un travail de longue haleine, mais qui a abouti en parallèle avec l'administration centrale, bien sûr, mais on est allé aussi intervenir auprès de Bruxelles pour faire évoluer la réglementation européenne. Et aujourd'hui, on peut utiliser des caissons d'abattage en France, c'est-à-dire, c'est juste un petit module, en gros, pour faire simple, on va dire, c'est une bétaillère qui est aménagée spécialement, mais qui permet d'aller sur une ferme, de mettre à mort les animaux à la ferme, uniquement les mettre à mort, c'est-à-dire les étourdir et les saigner, et ça devient ce qu'on appelle une carcasse peau, une carcasse en peau, et cette carcasse, on la ramène vers un abattoir classique pour faire la suite du travail. C'est-à-dire qu'on élimine pour l'animal tout ce qui est transport vivant, chargement dans un véhicule, déchargement à l'abattoir, tout le stress qui est lié à ça.
Quoi. C'est super,
donc ça, c'est... Ouais, c'est super. C'est aussi pas simple à mettre en œuvre. Il y en a un qui fonctionne depuis un an et demi maintenant dans le département de l'Hérault, avec l'abattoir de Pézenas. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui soient... Enfin, il y a quelques groupes à travers la France qui réfléchissent à cette idée-là. Mais il n'y en a pas d'autres de lancer. Et c'est une question d'abattage en bovin uniquement, pour abattre uniquement des bovins. On travaille avec le groupe de l'Hérault aussi actuellement sur une question d'abattage pour des petits ruminants, donc ovins, caprins. Et après, pour des porcs aussi.
Et parce que ça ne peut pas être le même, alors.
Et ça ne peut pas être le même. C'est trop, c'est pas les mêmes techniques de mise à mort. Donc, tout entrer, les différentes techniques à l'intérieur d'une même remorque, ce n'est pas possible. Donc, ça complexifie encore le système. Et puis, la dernière solution pour la mise à mort, la ferme, c'est ce qu'on appelle les abattoirs d'élevage. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un certain nombre d'éleveurs qui, face à cette difficulté qu'il y a à avoir accès à des abattoirs, décident de faire un abattoir chez eux, sur leur ferme, uniquement pour l'abattage de leurs animaux. Et okay. c'est quelque chose que bien souvent les gens pensent que c'est pas possible. En fait, c'est possible.
Peut-être, c'est compliqué.
Pas nécessairement. Okay. Aujourd'hui, on a des éleveurs en petits ruminants qui ont fait des outils d'abattage qui ont coûté dans les 25 000 euros.
C'est pas cher.
Alors, bon, c'est toujours une somme, mais pour des éleveurs qui vont avoir une facture d'abattage tous les ans quand ils vont à l'abattoir de 3 000 euros, investir 25 000 euros, c'est amorti en 9 ans, quoi. Voilà, 8-9 ans, quoi. Donc ça vaut le coup. Et puis, ça permet d'avoir une complète maîtrise de cette phase-là, quoi. En plus, l'atelier de découpe, en général, l'abattoir sert d'atelier de découpe. Donc les gens font maîtrise chez eux sans se déplacer. Toutes les étapes intermédiaires entre l'élevage de l'animal et la commercialisation de la viande.
Okay. Voilà. Jusqu'au client qui doit être content.
Et ça, c'est quelque chose qui est relativement accessible. Alors, ça dépend les choix qu'on fait au niveau technique, mais on travaille aussi sur des solutions très simplifiées pour avoir accès à ces outils-là. Et c'est quelque chose qui prend bien parce que, en plus, malheureusement, je dirais, ça relève d'une initiative individuelle. Et c'est plus facile de prendre une décision individuelle qu'une décision collective.
Je confirme, c'est compliqué le collectif.
Le collectif, c'est compliqué. C'est très attrayant, c'est alléchant, c'est mobilisateur, etc. Mais pour arriver au bout du compte, c'est souvent, ça demande beaucoup d'abnégation, de temps. Voilà. L'initiative individuelle est beaucoup plus simple. Quoi. Voilà. Et on a quelques projets. L'année dernière, on a eu 3 abattoirs d'élevage qui se sont créés en France. On en a 2 ou 3 aussi qui devraient sortir de terre d'ici la fin de l'année à peu près, et d'autres encore pour l'année prochaine, quoi, en perspective. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, quoi, et une alternative.
Et du coup, là, aujourd'hui, vous venez présenter toutes ces solutions, c'est ça, aux éleveurs, oui, aux élus.
Je ne sais pas trop, je vais les présenter à qui on me demandera de les présenter. Okay. Voilà, mais je suis là pour cet après-midi pour partager ma connaissance de ce sujet-là. Voilà.
Et après, on donnera la suite dans une prochaine émission pour savoir qu'est-ce qui s'est passé.
Exactement, c'est aux gens, aux paysans d'ici de prendre la balle au bon et de construire leur projet. C'est pas moi qui vais le construire à leur place.
Vous les accompagnez.
Exactement.
Merci beaucoup Jacques,
c'est
très intéressant.
Le MAG du Pays Midi Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et à 21h, et en podcast sur le site cfmradio.fr.